réserve ferme à clé, qui était recouvert par la même chape de plomb, voilà. Et c'est le passé de son, c'est aussi le passé de son père. Et elle veut retrouver cette époque. Elle veut retrouver la vérité de cette époque. Et donc c'est aussi un film. C'est quand ça parlait dans les marités, quand même pour vous. La parole. Et c'est aussi un. C'est un film qui est difficilement en galère ça. Sur l'histoire de la Pologne, évidemment, mais c'est aussi un merveilleux film sur l'écriture même de l'histoire. Qu'est-ce que c'est qu'écrire l'histoire? Qu'est-ce que c'est que réécrire l'histoire, revisiter le passé? Et comment c'est toujours, ça c'est une position philosophique d'ailleurs, comment c'est toujours à partir du présent, on pourrait transposer ça aujourd'hui en France, c'est à partir du présent qu'on revisite le passé. Et non seulement qu'on le revisite, mais que, comment dire, qu'on peut, et là je m'inspire d'un philosophe contemporain, enfin, qui est Walter Benjamin, qui a écrit un petit texte magnifique qui s'appelle Les thèses sur le concept d'histoire, et dans lequel il explique que certains événements passés, peut-être presque tous, enfin en tout cas certains, parce que c'est justement pas tous, attendent de nous d'être sauvés. Il y a une sorte de messianisme un peu totalement pas du tout religieux. Et donc, c'est à la lumière du présent, une sorte d'appel qui se produit dans le présent, que nous pouvons retourner vers le passé pour le faire exister en vérité, pour le sauver de l'oubli. Et c'est exactement ce qui se passe dans mon film. Et elle est, normalement, c'est une image, selon Benjamin, c'est une image du passé qui vient en quelque sorte éclater dans le présent. Et là, c'est exactement ça. On voit qu'elle est comme appelée, happée presque, par la statue de Birkut dans la réserve du musée. Et à partir de là, voilà, la mécanique est en marche et elle veut retrouver la vérité de ce passé. Et elle va se heurter, évidemment, à toutes les autorités. Voilà. Je ne sais pas. Je peux continuer.
Monsieur, oui. Je crois que, je ne sais pas, mais il me semblerait que sa vision de l'histoire, ce n'est pas une condamnation. Hein. Bien au contraire, il y a...
Ah oui, non, pas du tout.
C'est très ambigu.
Oui, c'est clair, absolument.
D'autre part, pardon, oui. D'autre part, il nous confronte à notre histoire à nous, notre présent, par rapport à ces passés-là. Absolument. Là, il y a des réussites. J'ai pensé pendant les films, pensons aujourd'hui au cas de Cuba, par exemple. C'est une société exactement comme c'était celle-là à l'époque, n'est-ce pas? Bon, Cuba a résolu le problème d'éducation. Tous les gens ont 12 années d'éducation plus 2, 14. Ensuite, problème de santé. Il n'y a pas de problème de santé à Cuba. Ces médecins sont des meilleurs médecins.
Oui, non, mais c'est le même problème ici. Ils ont des logements.
Problème de logement, résolu à la moitié, n'est-ce pas? Oui. Mais ces gens-là de Cuba, ils ne nous regardent que nous. Ils veulent la consommation, ils veulent notre modèle, etc. Regardons maintenant toute la Tunisie, avec Lampedusa.
Et non, mais il me semble que ce que fait Raïda.
Je finis avec une seule phrase de plus. Donc là, il y a, dans ces sociétés-là, la société polonaise de cette époque, il y a des réalisations qui sont concrètes. Éducation, et même les films.
Il y a un personnage d'ailleurs qui le défend à la fin. C'est, comment il s'appelle, Jodka, qui a vieilli, et qui défend Nawałta, en disant, voilà, si ça dépendait de lui, Cracovie, il raserait tout, sauf la peur de je ne sais pas quoi, etc. Non, moi je crois que, que c'est intéressant dans ce film, c'est que justement, ça a créé débat, notamment en France, quoi, ça a été l'objet d'un débat. On s'est demandé quel était le regard justement que Raïda portait sur cette histoire et si parfois, il ne cautionnait pas certaines errances du passé, etc. ou des choses qui ne seraient pas des errances, selon ce que vous dites. Alors je crois que la réponse à cette question qui a vraiment été en débat, enfin je n'ai pas suivi à l'époque, mais je me suis un peu penché sur ce qui a été fait. Je crois que la vérité, c'est que en fait, l'originalité de ce film, c'est de donner, de faire entendre toutes les voix. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde peut y trouver son compte. Et donc, à chaque fois, il défend le personnage qu'il crée. Hein. Et donc, ça veut dire que c'est un film qui fait entendre, enfin, qui éclaire un peu ce rapport au passé de plusieurs façons. Et alors, il y a l'idée quand même, qui apparaît assez bien dans le film, que l'histoire est quand même, enfin c'est la phrase de Benjamin, enfin c'est vrai d'ailleurs, l'histoire est toujours l'histoire des vainqueurs, bien sûr. Hein, la continuité d'une histoire, enfin la continuité d'une histoire, n'est pas, contrairement à ce qu'on croit naïvement, n'est pas un donné qui sera un donné de, comme le temps qui passe, l'histoire passerait, s'écrirait, etc. Tout ça, c'est, j'allais dire, un peu, c'est des balivernes. La vérité, c'est vrai, de l'histoire que nous vivons aujourd'hui, c'est que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et donc, il y a... Donc ça veut dire que les vaincus n'ont pas la parole. Alors cette idée, on la retrouve chez Benjamin, mais on la retrouve chez Foucault, etc. L'idée, c'est que les vaincus n'ont pas la parole. Et donc il y a une tradition des vaincus qu'il faut essayer de retrouver. C'est-à-dire, et c'est bien ce que fait Agnès là, elle essaie de redonner la parole à ceux qui ne l'ont plus. Par exemple, cette statue de marbre qui a été quasiment... Enfin, je crois qu'elle a dit qu'elle l'a interpellée parce qu'elle était... J'ai oublié le mot qu'elle utilise. Pas allongée, enfin, mais enfin, elle était touchée ou pas écrasée. Ça visualisait et ça incarnait bien l'idée de ce qui a été vaincu dans l'histoire, donc qui a été jeté aux oubliettes. Et elle va faire revivre cette statue en faisant son film. C'est ça. Donc il y a ce dialogue perpétuel avec l'histoire. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas un jugement de condamnation, mais il y a quand même une critique d'un régime totalitaire, il y a une critique de la propagande, etc., bien sûr. Mais Vaïda, de toute façon, a vécu ces années. Il a tourné.
J'ai pas que... Oui. Il y a un personnage très intéressant dans le film, oui. C'est ce copain de l'héros, oui. Qui finalement oui. S'est trouvé...
Absolument.
Et qui s'est retrouvé de nouveau dans le système.
Absolument.
Et il y a... un regard, c'est lui, est très très bien fait.
Oui.
Ça veut dire, on ne peut pas dire que c'est un personnage qui est entièrement positif, mais sûrement pas négatif.
C'est pas absolument. Donc, oui, c'est un des personnages les plus intéressants parce que justement, ça brouille les pistes. Enfin, moi, ça brouille les pistes justement de cette opposition qu'on fait entre tradition, enfin entre la tradition des vainqueurs et la tradition des vaincus. Lui, ça a été un vaincu. Il a été emprisonné, etc. Il a été dénoncé injustement, ce qu'on veut. Et après, c'est devenu un anti. Enfin, anti, c'est-à-dire ça devient responsable, etc. Alors, on ne peut pas dire justement, effectivement, qu'il a retourné sa chemise, tout ça. Ça reste, c'est beaucoup plus complexe. C'est la complexité du personnage. Mais si on regarde bien, tous les personnages sont un peu complexes. Peut-être lui davantage que d'autres, mais chacun a une densité importante. Mais lui, c'est vrai qu'il pèse lourd parce qu'il a vécu la même chose que Birkout et après il se trouve séparé. Quoi.
Même ce collaborateur de la sécurité.
Oui. Ah oui, lui, voilà, exactement.
Il est aussi d'une façon
très nuancée.
Complètement
noir. Absolument. Il fait tout pour le sauver. Il fait tout pour sauver Birkout jusqu'au dernier moment. Et pourtant, c'est un collaborateur de la sécurité.
Il y a d'autres plans sur l'ami en question, de savoir, enfin le fait qu'après il soit aussi rangé. Enfin, moi, en tout cas, je me suis demandé après si la version du collaborateur de la sécurité n'était pas finalement peut-être vraie. On n'est pas. Enfin,
oui, on ne sait pas. Mais enfin.
Il y a tellement de points de vue différents dans les
fonctions
que au fur et à mesure de film, des fois, on réinterprète justement plutôt qu'au premier degré, il y a les bons et les méchants.
Comment on
réinterprète ? On peut se dire que celui de la sécurité. Et tout simplement bon, même si sa fonction n'est pas bonne, et que exceptionnellement là, il a voulu vraiment l'aider.
Ah oui, il a voulu vraiment l'aider.
Enfin, il ne me semble pas que dans le film ce soit si tranché que son ami de toujours
soit innocent. Oui.
Enfin, je n'ai pas vu de détails qui le prouvaient.
Non, mais c'est quand même une période où on faisait des procès à tort, quoi. C'est aussi quand même.
Ah, il n'empêche. Non, mais surtout qu'en plus, de toute façon, si c'est télécommandé par. Il peut avoir été que la cause accidentelle de ça. On peut très bien lui avoir demandé de faire ça dans le cadre de ce.
Oui. Oui, l'argument que sort le maître de la sécurité de dire. Dans les, enfin, voilà, il a fait la guerre des semaines dans le camp. Dans le camp, voilà, on recrutait des agents, etc. C'est possible. Bon, il me semble, enfin, je ne sais pas. Quand même, dans le film, rien ne permet de... Alors, c'est vrai que rien ne permet de l'innocenter, parce que vous... Enfin, rien ne permet... Il n'y a pas le moindre indice qui permet de douter de son innocence. Hein.
Non plus, ouais.
Voilà. Enfin, oui, attendez, Yves. Oui.
Le personnage central, quand même, Birkout, il fait figure de grand trahi de... Le personnage central,
oui.
Il est quand même effectivement trahi de toutes parts. Enfin, il a quand même une position de victime. Enfin, je trouve, il est trahi par les siens, enfin, par sa femme, trahi par le parti, il est trahi par ce en quoi il a cru lui-même, et jusqu'au bout, enfin, on hésite, est-ce que c'est un grand naïf, est-ce que c'est un idéaliste?
Absolument,
il y a juste la fin, au moment où, parce que quand même, ça va loin, puisque
quand il vient voter,
il va voter,
il fait voter son fils, ça c'est magnifique, voilà. c'est la transmission, et je veux dire, c'est son fils qui met quand même le bulletin dans l'urne, ouais. Et...
Le bulletin unique.
Oui,
oui,
sans doute, oui.
Oui, oui, mais
pas
oui, oui, oui.
Il n'y a pas
d'isoloir,
il n'y a pas d'isoloir.
Il n'y a pas de...
Oui, non, mais c'est vrai, on ne sait pas. Enfin, ce qu'il faut voir, c'est quand même qu'il a été fabriqué. Enfin, c'est un personnage assez compliqué. Moi, d'abord, j'ai adoré dans ce film tout ce qui précède le film. C'est-à-dire, avant le générique. J'ai rarement vu un pré-générique, c'est aussi dense. C'est-à-dire, il y a tout. Si on regarde bien, il y a tout. Le film en résumé, puisqu'il y a l'ascension de Gertrude et la déchéance, enfin, quand il retire les panneaux, etc. Donc il y a le fait, on comprend déjà qu'on l'a fabriqué, voilà, tout ça va être une image, etc., et une icône. Et puis il y a surtout dans ce pré-générique, il y a surtout le fait que c'est du sonore, mais c'est quand même du muet, c'est-à-dire qu'on ne les entend pas parler. Et en fait, c'est parce que aussi, alors il y a plusieurs interprétations possibles, mais peut-être parce que effectivement, dans un régime, parce que, enfin, il s'agit d'un régime totalitaire, on n'a pas la parole, au fond, on peut toujours parler à condition de rien dire d'important, et si on dit quelque chose d'important, on le voit d'ailleurs dans le film, le son est coupé, à un moment donné, vraiment, le son est coupé. Donc, il y a déjà dans ce pré-générique, il y a déjà quand même toute l'ambiguïté un peu de Birkut, parce qu'il est fabriqué de toutes pièces par Burcy, je crois, c'est, enfin, le cinéaste. Il est fabriqué de toutes pièces, il le dit d'ailleurs, il dit c'est moi qui l'ai fait, carrément. Mais, alors, quand même, il est fabriqué de toutes pièces, mais en même temps, c'est là où il y a un point commun entre lui et la jeune réalisatrice, c'est pas par hasard, si elle l'a choisi, quoi. Il a été fabriqué de toutes pièces, mais il excède le système, il est exorbitant par rapport au système, et en fait, il gêne le système. Et voilà, c'est évident, c'est pour ça qu'il se retrouve d'ailleurs en prison, et voilà. Donc, c'est en un sens, on pourrait dire, c'est une marionnette, puisqu'on voit ces tableaux, c'est le grand portrait qu'on approche, qu'on décroche. C'est vraiment, on a l'impression qu'il y a des marionnettes derrière, dans l'invisible, qui font ça, quoi. Donc, les hommes ne sont que des marionnettes. D'ailleurs, la devise de l'État totalitaire, c'est, je crois que c'est donné dans les années 1910, c'est l'État, enfin, c'est une phrase, mais c'est l'État et tout, l'individu n'est rien, quoi. Et là, on voit bien comment les individus sont simplement, voilà. C'est l'État qui tire les films, les fils, mais en même temps, lui, il se laisse pas faire. Et c'est vrai qu'on se pose la question, est-ce que c'est un grand naïf, est-ce que c'est... Je crois qu'il a été fabriqué par le système et qu'il échappe au système. Voilà. Et ça, c'est ça qui fait la beauté du film, il me semble.
Oui. Tu crois que toutes ces choses dont on vient de parler là, ce sont les couches de la fiction?
Oui.
Mais il me semble bien plus important le point de vue de Baïda dans son film, que c'est un point de vue esthétique. Toute la société est quiche. Tout ce qui se passe est quiche. Mais il y a quand même un projet qui va quelque part. Et c'est là que le film est intéressant. Oui, tout ce qui se passe est quiche, les défilés, même la façon de travailler. C'est censé faire travailler une seule personne à la place de tous les autres qui regardent. Je suis enseignant en même temps.
Oui, non, c'est déjà fabriqué, quoi. Enfin, c'est dans le factice, quoi. C'est factice. Enfin, oui. Oui, c'est la propagande, il fabrique tout, quoi. Oui. Comment ? Il est pas nu ? Pardon, oui. Excusez-moi.
Je voudrais dire que ce qui est aussi intéressant, que le film finit à Gdansk, dans les chantiers navals, et donc c'est là où, après, quelques années plus tard, parce que le film était tourné en 77, et Solidar Russe c'est 80, 81, donc de certaines façons, après aussi ces retrouvailles de cette réalisatrice avec le fils. De cette façon, c'est un message, c'est une nouvelle génération.
Bien sûr.
Il sort en fait de ce centre qui devient quelques années plus tard en fait le centre de cette révolte ouvrière en province. C'est intéressant.
Bien sûr, c'est. Et il a eu du mal. Je crois qu'il y a un plan qui a été coupé d'après ce divide-là, qui n'a pas passé à la censure. Mais bien sûr, l'inscription est chantée de danse. C'est là où on apprend dans L'Homme de Fer, dans la suite, on apprend que c'est là où bien tout est mort, quoi. La révolte. Oui, c'est très émouvant la fin. Et oui, quand ils reviennent à l'école, enfin à l'école, au siège de la TV, avec le fils et la jeune Agnès-là, c'est extrêmement émouvant. Et je crois d'ailleurs que c'est un plan qu'il avait. Il y a une histoire sur ce plan, mais j'ai oublié. Je crois que c'est un plan qu'on retrouve dans L'Homme de Fer, il me semble. Pardon ?
J'ai pas vraiment compris le dernier plan.
Le dernier plan, ouais. Il annonce, je me demande si c'est pas un plan qu'il avait. Il annonce la suite, parce qu'en fait, il y a un diptyque. Il y a L'Homme de Marbre qui est tourné en 76, qui sort en. Qui est tourné en. Oui, en 76, et qui sort en 78. Et il y a ensuite le deuxième plan du diptyque, qui. C'est L'Homme de Fer, c'est la suite, en tout ça. Qui sort en 81, je crois, et 83, je ne sais plus. Et c'est lui qui a, c'est-à-dire, c'est L'Homme de Fer qui a la Palme d'Or à Cannes. Et normalement, il va y avoir un triptyque parce que Reda projette de faire la suite avec Reggie Valesa.
Et la seconde partie, c'est
sur la seconde partie. Oui, c'est deux filles, bien sûr, c'est ça. Et c'est son histoire avec. Donc là, on est vraiment en plein dans la lutte, voilà, c'est ça. Dans la lutte à danse. Ça annonce la suite, quoi. Et on voit bien, d'ailleurs, là, comme s'il sentait venir. On voit bien l'espèce de rédacteur de la. La TV là est effrayée, il rentre dans son bureau quand il voit ça.
C'est le professeur en fait.
Oui,
hein.
Oui, c'est ça.
Un professeur qui fuit.
C'est un professeur, mais c'est un professeur.
Qui a des subventions à donner. Mais
oui, voilà, c'est ça. Non, puis c'est aussi quelqu'un qui obéit au. Enfin, c'est le même. Voilà, c'est qui obéit au pouvoir, quoi. C'est peut-être le seul qui soit pas. Il y a un nombre de personnes. Lui n'est pas tellement sauvé, je trouve.
Parce que c'est un homme du passé, c'est un homme du système.
C'est un homme des années 70, justement.
Oui, mais il reproduit les failles du passé, puisque finalement, il reproduit cette espèce de cadre du système qui, quelque part, est
intangible. Oui, à tel point que.
Alors qu'au contraire,
la monteuse, par exemple, qui travaille pour lui, la monteuse, elle, par contre, elle a pas. Elle comprend qu'il y a là quelque chose et elle prend tout de suite la chose. Alors que lui, il est enfermé dans ses.
Oui, mais à la fois, il la cadre. Hein, parce que c'est comme pour je reviens sur l'idée que son compagnon n'est pas forcément tout noir, tout blanc. Enfin, j'ai l'impression que le personnage principal, il est hors norme. Et donc, on peut très bien imaginer qu'un système normatif comme ça, même s'il veut des records, un personnage comme ça qui devient hors norme et puis qui est tellement effectivement idéaliste, peut avoir un moment gêné le système. Je n'ai pas cru à un seul moment que l'indicateur, l'histoire de Franco, c'était ça la vérité, parce que un espèce de prétexte. Mais on peut très bien se dire qu'effectivement, il a gêné, au bout d'un moment, il a gêné le système. Et sur la figure du professeur, moi je trouve qu'elle n'est pas si
négative,
négative qu'elle veut paraître. Parce qu'à la fois, c'est devant les gens de la télé qui sont les sponsors en fait.
Oui.
Les gens de la télé trouvent ça complètement nul. Lui trouve ça intéressant. Et il lui coupe.
Je ne suis pas sûr. dès le début.
Ils lui disent intéressant.
Oui, enfin, au sens où, oui, non, c'est intéressant, mais voilà.
Pas avec un grand sourire, mais il lui dit c'est intéressant, et je pense que c'est.
Mais
pas...
dès le début, enfin, moi je veux bien, mais.
Oui, il me semble. Hein.
Dès le début, quand même, il lui dit vous allez déterrer des choses, il lui dit faites un film propre.
Sur l'acier.
Sur l'acier, enfin.
Ah oui, mais ça, c'est ce qu'il est obligé de dire.
Ah c'est non, pas... je ne sais pas.
Moi, je trouve que quelque part,
vous,
il a.
Vous avez. Non, par curiosité, qui l'a ressenti comme ça? Parce que. Non, c'est pas
c'est marrant parce que. C'est comme son père qui lui dit il faut que tu ailles le chercher. Moi, je trouve que le prof la ramène à la réalité du fait qu'il faut qu'elle aille le chercher et qu'elle n'a pas besoin de caméra pour trouver cet homme.
Ah là, je crois que
vous
faites beaucoup de crédit, mais c'est bien, c'est ce qu'il faut. Je défends les noms, je suis d'accord avec vous sur la démarche. Bon, moi, j'avoue, je l'ai vu comme un
reflet du système.
Voilà, du système, voilà, dans toute son horreur. Quoi, je veux dire, ouais. Où, le refus de. Enfin, ils doivent avoir que des diplômes de merde, et pour une fois, ils ont un diplôme qui est. La monteuse le dit, cette fille a du talent, quoi. Ils ont quelque chose et voilà.
Mais c'est lui qui lui a donné l'idée du film, quand même.
Ah, pas du tout. Pas du tout. Il a demandé de faire un truc.
Elle a dit
sur l'acier.
Non, ça, c'est ce qu'il lui dit quand il voit qu'elle va trop loin.
Non, dès le début.
Et pourquoi elle dit dans ces cas-là, ce film, on me l'a donné et ils me le reprennent? Elle dit ça à son père. Elle explique.
Vous vous souvenez de ça? Oui, bien sûr, à la fin, oui. Ils ont donné les moyens.
Au tout début, dans la première scène, elle dit, je ne comprends pas, ce thème, c'est vous qui l'avez voulu. Et maintenant, ce thème lui a été un peu... Enfin, on lui a suggéré ce thème, et très vite, on l'a repris.
Non.
Et c'est quoi, alors, ce film, c'est quoi le sujet
Non, parce qu'il dit, il jette, enfin, à mon sens... Enfin là, il jette une chape sur la totalité des années 50. Ils sont, je veux dire, encore une fois, dans le musée, ils sont condamnés, on n'a même pas le droit d'aller les visiter. Bon, et à la télé, on n'a pas le droit de faire son diplôme dessus non plus.
Oui, mais alors c'est quoi quand elle dit on me l'a repris?
Ben, c'est parce qu'on me l'a donné au sens où on l'a laissé le faire. Enfin bon, voilà, c'est elle parle de.
Elle a un film à faire, de toute façon.
Elle a un film à faire, mais
voilc
voilà.
Elle a une équipe à sa disposition, là, de la pellicule, pour faire passer son diplôme.
Oui.
Voilà.
C'est tout.
Mais son chef de.
Voilà.
On aurait pu interdire dès le départ.
Mais il l'a interdit, il faudrait. Dès le début, les premiers plans, après le générique, les premiers plans, c'est non. Touchez pas à ça, vous allez nous emmerder. Ça va vous attirer des emmerdes, et à moi aussi, on va tous les deux y passer, etc. Non, c'est un prudent, il ne veut pas avoir d'emmerdes, il ne veut pas avoir d'histoire. Voilà. Je dirais qu'il ne veut pas avoir d'histoire, et pour ne pas avoir d'histoire, il ne faut pas aller voir dans l'histoire. Il
ne
faut pas remonter dans le passé. Ils sont ?
Tous sont comme ça, sauf deux peut-être, essentiellement la femme,
ah oui.
Qui trouve un refuge uniquement dans la boisson.
Ah oui,
elle n'a pas d'autre solution.
Oui, c'est un suicide.
Et je pense que c'est quand même quelque chose de très grave.
Oui.
De voir que la seule solution qu'on ait, c'est tout oublier.
Elle a une phrase terrible, d'ailleurs magnifique et terrible. Enfin, quand elle dit. D'abord, elle le quitte avec une brutalité. Ça m'a fait penser à un autre film de Vaida qui s'appelle Sans anesthésie, qui est un film comme ça, sur une rupture sans anesthésie, c'est toutes les 10 fois. Et là, elle le quitte sans anesthésie. Quand elle dit qu'est-ce que je vais faire, ce que tu veux, et voilà. Mais elle lui dit, tu as un monument, et moi je suis une ordure, et ça, voilà, ça restera toujours comme ça. Et ça, c'est terrible, quoi.
Ce qu'il y a d'affreux dans ce film, je trouve, c'est ce qu'on arrive à faire avec des hommes normaux, des hommes bien, des hommes qui ont envie, qui ont une morale, et on arrive à en faire des lavettes et même des
soupeurs. Oui, enfin, c'est plus...
C'est une peinture affreuse.
Non, pas tout à fait. Parce que ça montre aussi comment. Enfin, moi, ça m'a frappé qu'on est. Ces ouvriers, ils sont magnifiques, quand même. Ces Polonais, ils sont magnifiques. Ils y croient. Et c'est là où on voit quand même c'était le totalitarisme. Je veux dire, en passant, c'est fait dans tous les pays totalitaires. On voit bien la différence entre le totalitarisme et des régimes qu'on appelle despotiques, ou tout ce qu'on veut, tyranniques, dictatures, etc. Dans une dictature, dans une tyrannie, tout ça, il n'y a pas d'adhésion du peuple, des masses, etc. Là, il y a une adhésion absolument extraordinaire. Ils y croient. Et Birtut y croit. Alors, lui, à un point.
Il est acteur. Enfin,
bon. Moi, je trouve, dans le Stakhanovist, oui, il y a cette histoire de briques.
Oui.
Bah oui, cette histoire de briques, oui. c'est pas l'autre, c'est pas machin.
Oui. Non, c'est des ouvriers.
Voilà.
Alors c'est très intéressant, c'est que dans le Stakhanovist, c'est très intéressant dans le film, c'est là où on s'aperçoit que c'est merveilleusement fait. C'est que l'espèce de commissaire politique, le flic, on va l'appeler flic pour aller plus vite, mais il est là dès le début. Ça veut dire que l'État, lui, sait que le Stakhanovisme a des ennemis au sein même du monde ouvrier. C'est-à-dire qu'il craint les attentats. Alors que Birkout ne peut même pas imaginer la chose. Lui, il a complètement lobé l'idéologie du pouvoir et il l'a intériorisé. Et c'est pour ça que la bride chaude, enfin cette brûlure, va être... pour lui, alors une déchéance au niveau politique, tout ça, mais c'est que ça lui pose, enfin j'allais dire, ça lui pose indépendamment de la brûlure, une brûlure intérieure, un vrai problème intérieur, c'est-à-dire, enfin ce qu'on pourrait appeler le négatif en philosophie, c'est-à-dire tout d'un coup, là, son personnage ne fonctionne plus. Parce que la négation est venue, au fond, du monde ouvrier, donc il ne comprend plus. Il avait l'impression de faire ça pour les ouvriers, qu'il y avait une unité, enfin bref, il a cru au discours du pouvoir, or ce n'était qu'un discours idéologique. Donc je ne serais pas tout à fait d'accord avec vous pour dire que le système fait des hommes des comme ça. Parce que c'est aussi ce qui a fait la force des régimes totalitaires, il faut bien le voir. C'est que, il voulait créer un homme nouveau, alors on a vu ce que ça donnait. Mais quand même, il y avait cette espèce de... Enfin, voilà, il s'agissait quand même de ça a raté. Ça a raté d'ailleurs en partie, c'est un peu complexe, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a cette espèce de... Alors, pas tous les ouvriers, il y avait des tensions dans le monde ouvrier, bien sûr, mais il y a quand même une adhésion... Comment ?
Dans le monde du travail, il y a toujours
eu... Oui, voilà, c'est ça, exactement.
Il y a entre les uns.
Voilà, exactement.
Celui qui veut en faire...
Voilà, voilà.
Mais je crois que dans notre... Pardon.
Oui ? Non, je ne sais pas. Je vois. Oui ?
Oui.
Allez-y.
Je me rappelais qu'il y a un moment assez extraordinaire lors du procès.
Oui.
Peut-être au moment justement où il se charge lui-même et où il fait
éclater.
Il fait éclater complètement
C'est magnifique. C'est magnifique. Oui.
Donc, je voulais dire qu'il n'y a pas que dans un régime dit totalitaire que les hommes deviennent des sous-hommes comme ça. Je crois que les propagandes. Et par exemple, nous pourrions parler de la consommation, si vous voulez, actuellement dans les pays occidentaux en France. Oui. Nous avons une propagande épouvantable qui nous ôte notre libre arbitre. Et je crois que c'est là le danger.
Moi, j'ai le pensé la même chose, mais sans la dimension propagande. Mais je pense la même chose dans le sens où, moi, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'ils soient endoctrinés par le pouvoir. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est être fier de lui et le mieux. Ce qu'il dit, en tout cas, c'est pour sa gloire à lui.
Bon, évidemment, discours qui est véhiculé par l'État.
Mais là où je rejoins madame, et je ne raconte pas sur le fait de la propagande, c'est que dans notre époque, le toujours plus de performance, on est dans une époque de...
Il y a une idéologie,
bien sûr. Dans la logique capitaliste, toujours plus de performance, on retrouve quelque chose qui est similaire. Et pourtant, on n'est pas dans un... Donc pour moi, ce n'est pas une dimension totalitaire, ce n'est pas une dimension propagande. C'est aussi... c'est pour ça que je pense que ce n'est pas surimposé à la société ou à l'homme. Je pense qu'il y a le fait qu'effectivement, il faut travailler pour vivre et qu'après, il y a...
Enfin, c'est l'intériorisation de l'aliénation du système, quand même.
Je ne sais pas pourquoi on est dans la morale.
C'est le système qui est aliénant, quand même.
Oui, voilà. Oui, mais ce n'est pas nécessairement un système...
Totalitaire.
Voilà,
mais en l'occurrence, c'est
certaines valeurs et ça se fait pas au nom de certaines valeurs morales et sociales, comme c'est le cas ici dans.
Oui, mais lui, le personnage, lui, il le fait pas.
Ah, lui, il le faut,
non. Intérioriser.
Oui.
Non, il parle de c'est plus généreux pour que les gens aient des logements.
Ben oui, c'est ça.
Alors, nous consommons, etc., où nous travaillons plus, c'est pour notre compte.
Oui,
c'est personnel, c'est pas au nom de certaines valeurs et pour un altruisme de générosité sociale.
Oui, après, effectivement, c'est ça c'est la différence. Oui, non, je suis d'accord. Il y a une différence.
Non, mais lui,
il y a un embrigadement.
Non, mais il est plus fort dans un pays. Totalitaire, ne serait-ce que parce que nous on a des pluralités, je veux dire, il y a des oppositions, etc., il y a une pluralité de voix, Alors que dans l'origine totalitaire, il n'y a pas de pluralité de voix. Donc, ton document est plus fort. Et Birgit, c'est un. Oui, voilà, c'est ça. C'est un peu impressionnant de voir.
Est-elle réelle dans notre système?
Non, mais moi je veux bien faire de l'anti, mais je crois qu'il y a une différence de degré, sinon de nature, quand même.
Bien sûr, mais où est le choix? Soyons clairs.
Oui.
Propagande et publicité. Il propose de l'argent pour faire cette combine à 5, etc. Parce que
pas du tout,
quand il est avec son copain dans la petite chambre après qu'il se met à 5, au départ, il est avec le bouclier sur le lit
avant qu'il il dit je vais pas pouvoir dormir tellement il est excité.
Il dit c'est 30 000 à la clé, mais je pense d'abord à moi à un moment donné.
Pas du tout. C'est le nombre de bribes. Parce qu'on peut dire 30 000 bribes, ça veut dire, mais c'est pas ça, c'est des vraies bribes.
Non, parce qu'il y a l'évocation d'un voyage.
Parce qu'il y a un temps, je pense d'abord à moi.
Non, je crois que lui, c'est un pur, mais c'est un pur et c'est un naïf quand même. Et puis après.
Quand même, je pense d'abord à moi. Donc quand on entend. Enfin, moi, je le vois pas du tout comme un quelqu'un forcément de. Il veut des logements, c'est pas forcément d'autres motivations que nous qui voulons choisir ses amis. Il dit qu'il pense d'abord à lui, c'est pas non plus le comble. Enfin, moi, j'en fais pas un héros du tout. Hein.
Il est présenté comme un héros.
Oui, mais c'est tellement.
Mais c'est un héros fabriqué, voilà, ça.
Moi, il me semble qu'il y a une distance à avoir quand même, parce qu'il y a tout un tas d'indices dans le film qui le mettent à distance aussi.
Oui, absolument.
Il est aussi quand même un peu ridiculisé.
Il y a un passage, moi, qui m'a frappé. Ça dure très peu de temps. C'est au moment où c'est le seul moment où j'ai trouvé qu'il y avait une vraie faiblesse de Birgit, mais c'est humain, trop humain, quoi. C'est au moment où je ne sais plus comment il s'appelle, le responsable, ils commandent les coiffeurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors c'est très intéressant, c'est filmé, parce qu'au départ, il est tout gentil, il a une voix toute douce avec Birgit, pour toi, je ne sais pas si c'est un petit bouffe ou je ne sais pas quoi. Et puis, donc il se fait tout petit, et puis tout d'un coup, il faut les coiffeurs. Et là, il a une autorité pas possible, quoi. Il fait venir les coiffeurs comme ça dans la minute, etc. Et il lui offre, et il lui offre une cigarette. Et bien tout qui était avant énervé, qui faisait la gueule, tout d'un coup, il a un sourire et en fait, on a l'impression que là, il sent l'espèce de collusion qu'il y a entre le pouvoir et la jouissance, parce qu'il y a à la fois le pouvoir, et immédiatement après, il y a le cigare ou la cigarette qui vient. Et là, il y a peut-être une tentation, mais c'est pas un jouisseur. La preuve, c'est que quand le mec le propose, Johnny Walker, ou je sais pas, tel autre whisky, entre les deux, il dit je tournais ni l'un ni l'autre. Quoi. C'est pas un jouisseur, c'est quelqu'un qui n'a toute sa vie, qui n'a pas travaillé, mais qui a été un produit d'un système.
Moi, je vois surtout un produit aussi de l'esprit rustique de quelqu'un qui, on le décrit comme venant
de la campagne. Mais ils venaient tous de la terre. C'est ça aussi, ça montre. D'ailleurs, la pelleuse qui arrive, le bulldozer qui écrase je ne sais pas si c'est un truc d'aubépine, ou c'est un cerisier, ou des aubépines, je ne sais pas. Oui. Et c'est magnifique aussi, parce que c'est quand même c'est le système quoi, qui avance. Qui va faire changer le monde. On va passer de la terre, du clopin de terre à l'industrie. Et puis aussi, c'est les fleurs, c'est le printemps, c'est aussi la jeunesse qui va utiliser une jeunesse qui va aussi écraser, qui va donner confiance, qui va faire rêver, mais qui va aussi un petit peu sacrifier. Et donc, il y a là une image qui est assez forte, quand même. Hein. Mais, on pourra en parler. Je crois qu'il faut diminuer. Écoutez, je vous remercie d'être resté, parce que je ne vais pas cette heure-ci.